tête à l'époque et l'avait regretté pendant des années. Alors aujourd'hui, entendre Marthe n'était pas pour lui déplaire.
La petite a raison,
lança-t-elle à Octavine.
Elle a raison. On va faire ce qu'elle a décidé. Dans une ferme, tu sais bien qu'il faut un maître ou une maîtresse. Un seul, pas deux. Jean a dit que c'était Marthe, alors c'est elle. On va aller moissonner.
Mais...
bégaya Octavine, qui n'en revenait pas d'être soudain désavouée par sa mère et minoritaire.
Viens m'aider à donner la bacade à la truie, et après on fera ce qu'a dit Marthe,
coupa la vieille Aurélienne. Dès cet instant, Marthe comprit qu'elle avait pour l'heure sans doute gagné la partie. Mais le regard que lui jeta Octavine la prévint aussi qu'elle serait impitoyablement piétinée si elle laissait paraître la moindre défaillance, la plus légère faiblesse. Mercredi 20 décembre 1916. Tranchée des revenants, 22h25.
Dormir. Faut pas.
Crut s'entendre chuchoter Jean. Puis il réalisa qu'il sombrait dans le sommeil, qu'il n'avait prononcé aucun mot, et même qu'une bribe de rêve venait de l'effleurer. Une rapide vision de Louise et d'Albert jouant dans la cour au milieu des volailles, là-bas, aux combettes.
Pas dormir,
se redit-il. Et malgré le casque qui lui sciait la nuque, il pencha la tête en arrière pour offrir son visage à la pluie, qui chutait toujours. L'eau glacée ruissela sur son front et ses joues couvertes d'une barbe de plus de 10 jours. Une barbe qu'il savait être devenue blanche depuis longtemps, comme ses cheveux d'ailleurs, lesquels, de brun qu'ils étaient en août 14, étaient passés au gris sale l'hiver suivant, puis au blanc. Paraît que c'est la peur et les soucis qui font ça, pensa-t-il en se passant la main sur le visage pour mieux se débarbouiller avec la pluie. Enfin, cette salope de flotte va peut-être me réveiller. Elle servira au moins à quelque chose, espéra-t-il. Puis lui revint en mémoire le visage des enfants. De Louise, juvénile, portrait de sa mère. D'Albert, qui, paraît-il, lui ressemblait.
Bon Dieu! Si on m'avait dit un jour que les petits me manqueraient à ce point.
Cela aussi, autant que l'immense et douloureux vide créé par l'absence de Marthe, lui avait été révélé dès la séparation venue. Au sujet de Marthe, il savait, depuis son enfance, qu'elle lui était aussi indispensable que l'air, qu'il n'était que l'ombre de lui-même sans elle, sa solidité, son appui, son caractère, son corps aussi, bien sûr. Et c'était bien ce qui avait rendu son départ en août 14 aussi douloureux, déchirant. Mais vis-à-vis des enfants, tout avait été différent. Lorsque tout allait bien, en temps de paix, s'il avait été heureux et fier de cette descendance désirée et faite dans l'amour, une sorte de pudeur masculine l'avait toujours retenu d'être trop démonstratif avec les deux petits. Peut-être par crainte du ridicule, ou parce qu'il croyait que son statut de père réclamait une posture un peu rigide, un peu distante. Il ne s'était jamais beaucoup laissé aller à toutes ces marques d'affection qu'il jugeait être un apanage exclusivement féminin. Il se fût senti un peu ridicule de les donner. Cela ne l'empêchait pas d'aimer ses enfants et d'être attentif à leur vie et à leur éducation. Mais, pensait-il alors, son attitude se devait de rester virile et d'éviter surtout ce qui pourrait passer pour un sentimentalisme douceâtre, donc très loin de son statut et de son image de chef de famille. Tout avait basculé lorsqu'il avait vu les deux enfants en larmes au matin de son départ. Il avait d'abord pensé qu'ils sanglotaient car les impressionnaient les pleurs de leurs aïeuls. Mais la première lettre de Marthe lui avait prouvé à quel point il s'était trompé.
« Les petits te réclament, soir et matin. Ils se plaignent de ne plus te voir. Ils t'attendent, et Albert demande toujours pourquoi c'est moi qui attelle maintenant les vaches.
Il s'en était alors voulu de l'espèce de distance qu'il avait toujours veillé à garder vis-à-vis de Louise et d'Albert. Depuis, tous les deux revenaient très souvent dans ses rêves, et leur absence lui était une écharde. Jean était en train de se sentir gagné par un nouvel assaut de sommeil, malgré son visage maintenant ruisselant de pluie, lorsqu'un subit sifflement, suivi d'une sorte de crépitement, le fit sursauter. Immédiatement accroupi, car ayant aussitôt identifié le phénomène, il resta figé dans la boue aussi longtemps que crépita et jeta sa lueur blanche la fusée éclairante. Tiré depuis les tranchées ennemies qui défendaient le bourg en ruine de Barleu, à quelques 100 mètres de là, elle descendait maintenant lentement au-dessus de cette ligne avancée des boyaux où se tenaient Jean et ses compagnons. Il en aperçut d'ailleurs un, à 35 pas de là, figé comme lui, sorte de statue de glaise luisante, debout, pétrifié dans l'attente de la suite. Il allait de soi qu'on n'allait pas en rester là. Car même si elle venait d'être lancée par une sentinelle allemande aux 3/4 endormie, qui avait pris une troupe de rats pour un fantassin en train de ramper, l'enchaînement n'allait pas tarder. Il était inéluctable.
« Ça nous réveillera » pensa-t-il.
Il n'était pas très inquiet, car cette fusée qui jetait sa lumière blanchâtre sur le glacis désert, tout zébré de boyaux effondrés et constellé de trous d'obus, prouvait qu'aucune patrouille ennemie ne préparait un mauvais coup, du moins pour l'instant. En effet, seule la plus totale obscurité pouvait permettre à une poignée d'hommes de se glisser sous les chevaux de frise et dans les boyaux abandonnés, de s'approcher ainsi sans être vus et de fondre dans la tranchée choisie. De même, vu la très courte distance qui séparait les combattants, il était peu probable qu'un quelconque chef de pièce ordonne le tir d'une batterie de 77 ou de 105. Même avec les débouchoirs à zéro, les obus allaient passer très au-dessus des premières tranchées. En revanche, beaucoup plus dangereux pouvaient être les tirs de mortier, qui, suivant leur calibre, expédiaient soit des grenades, des obus de 150 ou de 210, ou encore des mines Anwerfer. Ces derniers projectiles, rebaptisés « sauts à charbon » par les Français, étaient chargés de plusieurs dizaines de kilos de chédite, un puissant explosif. Le résultat était terrifiant lorsqu'une telle mine tombait dans les tranchées. Et le fait de savoir que grâce au crapouillot, on pouvait aussitôt rendre la politesse aux expéditeurs n'était pas pour autant rassurant. « On va être vite fixé, » calcula-t-il en voyant faiblir la lumière crue de la fusée. Dans l'attente, il se tapit un peu plus contre la paroi de terre toute suintante d'eau. Ce fut d'abord, dès l'obscurité revenue, presque par principe, et comme pour prouver qu'en face, là, tout près, nul ne dormait, les tirs saccadés de 3 mitrailleuses Maxim, auxquelles répondit aussitôt le staccato des Hotchkiss, et les balles miaulèrent au-dessus des boyaux. Puis, moins d'une minute plus tard, tout cessa d'un coup, comme si les tireurs des deux camps, après avoir démontré qu'ils étaient tous à leur poste, estimaient inutile de gâcher davantage de munitions ou de perdre leur temps.
Ouais, c'est maintenant qu'il faut ouvrir l'œil, pensa-t-il en homme averti de toutes les arcanes de la guerre de tranchées.
C'est souvent après des escarmouches sans résultat, auxquelles on ne croit guère et qui vous mettent presque en confiance, que les salopards d'en face en profitent pour venir vous égorger. Il en avait tellement vu depuis bientôt 28 mois, tellement enduré, que le briscard qu'il était devenu, comme en témoignaient les chevrons qui ornaient ses manches, s'attendait toujours à tout, surtout au pire. Mais comment réagir autrement, lorsque, comme lui, désormais soldat de première classe, il avait fallu subir en avril et mai précédents, et après tant d'autres combats, l'abomination de Verdun. Une ville sur laquelle s'abattaient jour et nuit les obus de tout calibre de l'artillerie allemande. Verdun, avec, alentour, au nord-est et non loin de Douaumont, tous les postes qu'il avait fallu occuper, défendre, à froid de terre, bois des vignes, bois brûlé, bois la ville. Les tranchées souvent baptisées de noms sinistres ou dérisoires. Tranchées du soldat sans tête, du diable borgne, de la femme tronc, qu'il fallait déblayer sans cesse, recreuser sous un feu permanent, une grêle d'acier.